Dans les années 60, Françoise Hardy eut un succès certain avec le tube « Mon ami la rose », dans laquelle elle dit « Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien ou bien si peu de choses. » Nous sommes ainsi faits, que même au fond du trou, l'horizon bouché et aucune issue en vue, nous avons besoin de garder une lueur d'espoir, sous peine de tomber dans une détresse indescriptible. C'est la raison pour laquelle, quand les prophètes de l'Ancien Testament annoncent des jugements terribles, ceux-ci sont entrecoupés de promesses de bénédictions futures. Au nom de l'Éternel, le prophète Ésaïe fait un procès aux habitants de Juda, jouant un peu le même rôle que le procureur de la République. Après avoir exprimé son indignation vis-à-vis de son peuple, l'Éternel l'a traîné en justice. Ésaïe 1, versets 2 à 31. Façon de parler, bien sûr. Mais comme cet événement est particulièrement douloureux, Dieu promet aussi à son peuple qu'un jour, il sera rétabli. Ésaïe 2, les versets 1 à 5. Puis vient la sentence. Ésaïe nous a alors donné une série d'images effroyables décrivant le jugement qui frappera Israël. Ésaïe 2, les versets 6 à 4 et 1. La destruction du royaume de Juda, à cause de sa rébellion contre Dieu, se fera en deux étapes, et chaque fois, c'est par une invasion. D'abord par les Syriens, alliés aux Israélites des 10 tribus du Nord, dans 2 Chroniques 28, 5 à 8, et ensuite par Nebuchadnezzar, qui les déportera à Babylone. Malgré ces revers de fortune désastreux, un nombre important d'Israélites survivra. Les auditeurs d'Ésaïe pensent probablement qu'il leur parle de l'exil babylonien, ce qui est exact, mais en partie seulement. En effet, la portée de cette prophétie est bien plus grande, car Ésaïe voit loin dans le futur ceux qui sortiront de la grande tribulation, juste avant que le Christ ne revienne sur terre pour établir son royaume de 1000 ans. Matthieu 24, les versets 4 à 30. Maintenant, le prophète va une fois encore réconforter ses lecteurs terrifiés. Je continue de lire dans le chapitre 4 du livre d'Ésaïe. En ce jour-là, le germe de l'Éternel sera magnifique et glorieux, et le fruit du pays sera un sujet de grande fierté pour les survivants d'Israël. Ésaïe 4, verset 2. Pour les Hébreux, le jour commence toujours au coucher du soleil, donc par la nuit. Le prophète nous projette dans une période de l'histoire humaine que les Écritures appellent le jour de l'Éternel. À proprement parler, ce n'est pas un jour de 24 heures, mais un temps plutôt long et qui commence lui aussi par des ténèbres, c'est-à-dire un jugement, celui de la grande tribulation, et qui continue ensuite avec le royaume messianique, le règne de Dieu sur terre. Dans la littérature prophétique de l'Ancien Testament, l'expression « germe de l'Éternel » désigne le Messie. Jérémie 23, 5, 33, 15, Zacharie 3, 8, 6, 12. Et plus loin, Ésaïe l'appelle aussi « rameau » ou « rejeton ». Ésaïe 11, verset 1er, 53, verset 2. En ce jour-là, est une référence au millénium, le règne du Christ sur terre pendant 1000 ans. Comme c'est souvent le cas dans les prophéties, Ésaïe passe sans transition du jugement à la gloire future. L'oracle, qui commence ici, reprend le précédent quand le prophète parlait déjà du rétablissement d'Israël dans Ésaïe 2, versets 2 à 5. Après le jugement de Dieu qui a détruit les pécheurs, le peuple est purifié et ceux qui restent ont part au salut. Désormais, ils vivent paisiblement dans le royaume du Messie qui est leur gloire. Peu de temps après la naissance de Jésus, ses parents l'ont emmené au temple de Jérusalem pour accomplir les rites prescrits par la loi de Moïse. C'est alors que Siméon, un vieillard pieux est arrivé à l'improviste. Il l'a pris dans ses bras et a dit de lui, « Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Luc 2, verset 32. Ce qui est une référence au millénium, quand le Christ sera le souverain roi des rois et seigneur des seigneurs de toute la terre. Son trône sera alors à Jérusalem, et Israël sera à la tête des nations. Ce règne fabuleux sera fécond et aura pour fruit le salut des nations et la justice. Ésaïe 45, verset 8. Avec un grand J, dans tous les domaines et sous toutes ses formes, une situation que nous avons bien du mal à imaginer. Je continue le texte. Alors ceux qui subsisteront, ceux qui resteront à Sion, seront appelés saints, tous ceux qui, à Jérusalem, seront inscrits afin d'avoir la vie. Ésaïe 4, verset 3. Sion est le nom de la colline sur laquelle Jérusalem est construite. Dans les Écritures, les Israélites qui échappent au jugement de Dieu, que ce soit par des nations étrangères ou la grande tribulation, sont appelés le reste. Ces rescapés incluront aussi les non-juifs qui sont devenus croyants durant la période du jugement du jour de l'Éternel. Dieu a mis tous ces gens à part et les a inscrits dans le livre de vie, aussi appelé registre céleste. Cette image est tirée de l'usage des Israélites de répertorier par écrit les habitants de chaque ville. Nombre 1, verset 18, et 1 Chronique 9, verset 1er, Esdras, chapitre 2. Ce reste sera réellement saint, purifié de toute souillure et séparé des pécheurs qui auront péri dans le jugement. Il faut aussi noter que ce salut est individuel. Le nouvel Israël sera constitué d'individus personnellement saints et personnellement sauvés, comme c'est le cas sous la nouvelle alliance. Ces survivants constitueront un peuple nouveau et sacerdotal, consacré à l'Éternel pour célébrer son nom. En cela, ils sont très distincts des habitants de Juda contemporains d'Ésaïe, qui, eux, sont immoraux et idolâtres. Quand cette prophétie d'Ésaïe s'accomplira, le terme de l'alliance que Dieu avait établi avec son peuple dans le Sinaï par l'intermédiaire de Moïse seront réalisés. Dans le livre de l'Exode, on lit « Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » Exode 19, les versets 5 et 6. Je finis de lire le chapitre 4. Ceux qui subsisteront seront appelés saints, quand le Seigneur aura lavé la souillure des fils de Sion et enlevé le sang du milieu de Jérusalem par l'esprit de justice et par l'esprit qui consume. Alors, sur toute l'étendue du mont de Sion, et sur ces assemblées, l'Éternel créera un nuage et une fumée pendant le jour, et pendant la nuit, l'éclat d'un feu flamboyant. Car toute gloire sera mise à couvert. Et il y aura un abri qui donnera de l'ombrage le jour contre la chaleur, et qui servira de refuge et d'asile contre la tempête et la pluie. Ésaïe 4, les versets 4 à 6. Les filles de Sion représentent ici l'ensemble de la population de Juda, coupable de toutes sortes de vices et d'injustices, d'immoralité et d'exactions, et surtout de crimes de sang et d'idolâtrie. C'est par un châtiment sévère que Dieu va nettoyer tout ça. À la fin des temps, après le jugement de la grande tribulation, débutera le millénium dont je ne cesse de parler. L'Éternel créera alors une nouvelle réalité pour les rescapés, dont une sorte de feu qui de jour produira une nuée donnant de l'ombre, et de nuit une flamme éclairante. Cette image est évidemment tirée de l'histoire d'Israël, après sa sortie d'Égypte, Exode 13, versets 21 et 22, 40, les versets 34 à 38. Mais alors que les Hébreux sont dans le désert, la nuée vient se placer sur le tabernacle, la résidence visible de l'Éternel. Tandis qu'ici, dans la prophétie d'Ésaïe, il repose sur toute l'assemblée, parce que celle-ci constitue le reste saint d'Israël et le véritable sanctuaire où Dieu habite, puisqu'il n'y a plus de temple. Apocalypse 21, verset 22. L'abri qui protège des intempéries renvoie à la fête juive des cabanes, Lévitique 23, les versets 33 à 43, durant laquelle le peuple se remémore le séjour de ses ancêtres au désert et la protection divine dont il a bénéficié. Ceux qui entreront dans le millénium n'auront bien sûr aucun péril à redouter, puisqu'il y régnera une paix parfaite. Nous arrivons maintenant au chapitre 5, qui commence par « Le chant de la vigne », qui est un chef-d'œuvre de composition dont le but est de saisir l'imaginaire des auditeurs. D'un côté, la vigne, comme le jardin et le verger clos du Cantique des Cantiques, fait référence à une fiancée et à sa beauté, qui se garde pour son fiancé. Et d'autre part, ce chant est aussi une parabole poétique qui désigne Israël par la métaphore de la vigne. On la trouve à plusieurs reprises dans les écrits des prophètes, dans les psaumes et aussi dans les évangiles, Matthieu 20, verset 1er, 21, 33 et Jean 15. Dans les Écritures, la vigne et le figuier sont des images fréquentes d'Israël. Par ce chant, Ésaïe cherche à contraindre les habitants de Juda à reconnaître leur culpabilité devant Dieu. Le prophète Nathan utilisa le même procédé littéraire pour forcer David à se condamner lui-même de l'adultère avec Bathsheba et du meurtre de son mari. 2 Samuel chapitre 12. Plus tard, le Christ raconta à la classe dirigeante et en particulier aux pharisiens la parabole des vignerons. Matthieu 21, versets 33 à 41, dans le but de les faire réfléchir afin qu'ils se repentent et changent d'opinion à son sujet. D'ailleurs, durant son ministère, et cela plusieurs fois, Jésus avertit clairement et solennellement ses contemporains, et surtout les religieux, que s'ils persistent à le rejeter, ils subiront un jugement bien plus sévère que leurs ancêtres qui furent captifs de Babylone. Un événement amplement confirmé par l'histoire. Je commence à lire le chapitre 5. « Je veux chanter pour mon ami le chant de mon ami au sujet de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il ensarcla le sol, en enleva les pierres, et il y mit des plants de choix. Il bâtit une tour de guet au milieu de la vigne, et il y creusa un pressoir. Il attendait donc de sa vigne de beaux raisins, mais elle n'a produit que de mauvais raisins. » Ésaïe 5, versets 1 et 2. Dans ce prélude, c'est Ésaïe qui parle. Il adresse sa complainte à Juda dans le but de justifier son ami devant le peuple. Il chante au nom de l'Éternel et pour lui. Et il rapporte le cantique que son divin ami a composé pour se plaindre de sa vigne et pour annoncer le châtiment qu'il lui réserve. Dieu a prodigué beaucoup de soins à sa vigne, mais malgré toute cette attention, il l'a produit du verjus au lieu de raisins de qualité. En effet, l'Éternel a libéré les Hébreux qui étaient esclaves en Égypte. Et les a placés dans la terre promise, afin qu'ils lui rendent gloire et produisent les fruits de la justice. Mais le peuple élu s'est rebellé contre son Dieu. Par l'intermédiaire de son prophète, l'Éternel invite donc les habitants de Juda à se juger eux-mêmes. Je continue le texte. « Maintenant donc, habitants de Jérusalem, gens de Juda, soyez les juges entre moi et ma vigne. » Qu'y avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'aurais pas fait? Pourquoi alors que j'attendais un beau et bon raisin n'en a-t-elle produit que du mauvais? Ésaïe 5, les versets 3 et 4. L'Éternel demande aux habitants de Juda d'évaluer leur position vis-à-vis de lui. et de prendre parti en décidant à qui incombe la faute si la vigne a donné du mauvais raisin. Comme David face au prophète Nathan, dans 2 Samuel chapitre 12, les versets 1 à 7, les Israélites sont obligés d'acquiescer à leur condamnation, car il est évident qu'ils ont tort sur toute la ligne. Le verdict est sans appel. Qu'on leur jette la pierre. Quand on considère l'histoire des Juifs, on constate qu'elle se résume à une longue suite de rébellions contre leur Dieu. Alors bien sûr, il est facile de pointer son doigt accusateur dans leur direction. Mais suis-je bien sûr que j'aurais été fidèle à Dieu si j'avais été à leur place? Quand je me plains de mon sort, je suis moi aussi rebelle à Dieu. Je continue. Maintenant donc, je vous ferai savoir ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai une brèche dans sa clôture pour que les passants la piétinent. J'en ferai une friche. Nul ne la taillera, nul ne la sarclera. Les ronces, les épines y croîtront librement. Ésaïe 7, versets 23 à 25, 9, 17, 27, 4, 32, 13. Et j'interdirai aux nuages de répandre leur pluie sur elles. Ésaïe 5, les versets 5 et 6. Après le péché d'Adam et Ève, Dieu a maudit sa création, et en particulier la terre. Genèse 3, 17 et 18. Et la preuve? Ce sont les ronces, les épines et les mauvaises herbes qu'on rencontre partout, qui envahissent tout et qui empoisonnent la vie de tous ceux qui veulent cultiver le sol. Quand par l'intermédiaire de Moïse, l'Éternel conclut alliance de la loi avec Israël, l'une de ses clauses est la sécheresse en cas de désobéissance. Deutéronome 28, 23 et 24, comparé 1 Roi 17, 1. Cette prédiction d'Ésaïe semble indiquer que le jugement est imminent. Elle va s'accomplir de deux façons différentes. Littéralement, car le pays deviendra désertique, et figurativement, car le passant et les animaux qui broutent sont les envahisseurs qui ne vont pas tarder. Depuis la conquête de la Palestine par Josué environ 7 siècles plus tôt, l'Éternel protège son peuple dans l'héritage qu'il lui a donné. Mais cette bienveillance tire à sa fin. D'abord, les Syriens, alliés aux Israélites des 10 tribus du Nord, puis les Assyriens, et enfin, les Babyloniens vont tour à tour ravager le royaume de Juda. Je continue. Or, c'est la nation d'Israël qui est la vigne de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes. Le plan qui faisait ses délices, ce sont les habitants du pays de Juda. Il attendait d'eux la droiture, et ce sont des meurtres. Il attendait d'eux la justice, et ce sont des cris de détresse. Ésaïe chapitre 5, verset 7. Ésaïe termine ici son épigramme. La parabole de la vigne sous forme de chant et en donne l'interprétation. Comme dans d'autres textes, Néhémie 1, 6, 13, 3, Israël désigne ici le royaume de Juda. Comme l'Éternel a donné à Israël ce qu'il n'a accordé à aucun autre peuple, et qu'en retour, il a été payé en monnaie de singe par l'ingratitude, il va retirer à son peuple toutes les bénédictions dont il l'a gratifié, et il va le livrer aux païens. Pour bien établir la culpabilité des habitants de Juda, Ésaïe contraste ce que Dieu attendait de son peuple et ce qu'il a obtenu, en utilisant deux fois deux mots assonnants. Ces mots sont « droiture » et « meurtre » d'une part, et « justice » et « cri de détresse » d'autre part. Ils sont des significations opposées, mais des sons similaires. Je continue le texte. « Malheur à vous qui joignez maison après maison, et ajoutez un champ à l'autre au point d'occuper tout l'espace et d'être seul dans le pays. » Ésaïe 5, verset 8. Ici commence un nouveau réquisitoire. Ésaïe 5, verset 8 à 24, dans lequel Ésaïe dresse le tableau d'une société cruelle et prononce une série de 6 malédictions contre Juda. La formule « Malheur à vous » scande l'énumération des diverses injustices qui attirent la colère divine et qui fondent la raison du jugement à venir. Le premier vice cité est la cupidité d'un petit nombre de puissants propriétaires qui ont réussi à concentrer entre leurs mains une grande partie des terres au détriment de la masse du peuple. Michée 2, les versets 1 à 2. Ce qui est contraire à la loi qui garantit à chacun sa propriété, Lévitique 25. Selon la législation de Moïse, à l'intérieur d'une cité fortifiée, il est permis d'acquérir définitivement une maison. Mais dans les villes et villages qui n'ont pas de mur d'enceinte, l'achat et la possession d'une propriété est limité dans le temps, car tout bien immobilier ou agraire doit retourner à son propriétaire d'origine tous les 70 ans, qui est l'année du jubilé. En effet, comme c'est Dieu qui a donné la Palestine aux Hébreux, il leur est interdit de profiter de la détresse de leurs compatriotes en s'enrichissant sur leur dos. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul écrit que la soif de posséder est une forme d'idolâtrie. Colossiens 3, verset 5. Or, d'immenses fortunes ont été faites en exploitant la faiblesse de son prochain. Dans nos démocraties, l'hyperlibéralisme et le capitalisme sauvage encourage la cupidité qui, assez curieusement, dans les pays démocratiques, a été élevée au rang de vertu. Que ce soit Wall Street à New York, la City de Londres, la Défense à Paris ou n'importe quel quartier des affaires du monde, des adorateurs en costume trois pièces s'inclinent bien bas devant Mammon, le dieu de l'argent. Matthieu 6, verset 24. Mais ce Dieu est méchant, cruel et impitoyable. Il force ceux qui lui rendent un culte à piller les richesses de la planète, à créer toujours davantage de pollution, d'oxyde de carbone, qui contribue à l'effet de serre et donc au réchauffement de la planète. Une conséquence qui commence à se faire sentir et qui présage une catastrophe écologique et humaine. Les profiteurs de la planète sont véritablement, et on pourrait presque dire littéralement, en train de scier la branche sur laquelle nous sommes tous assis. Je continue le texte. Le Seigneur des armées célestes m'a parlé et m'a dit : ces nombreuses maisons deviendront une ruine, ces maisons grandes et superbes seront inhabitées. Ésaïe 5, verset 9. Littéralement, le texte dit « À mes oreilles l'Éternel des armées », ce qui signifie « Il me l'a lui-même clairement révélé, et tout ce que je vais dire est la parole de Dieu ». On connaît le proverbe qui dit « Bien mal acquis ne profite jamais ». Les Israélites qui ont profité de la détresse de leurs compatriotes pour s'enrichir à leurs dépens et pour se construire des palais n'emporteront pas leur action ignoble au paradis. Les gros propriétaires ne vont pas continuer à profiter de leur rapine, car Dieu va y couper court, et tous les nababs finiront massacrés ou en captivité. Je continue. Car 10 arpents de vigne ne produiront qu'un tonnelet de vin, et 10 mesures de semences n'en donneront qu'une de blé. Ésaïe 5, verset 10. Le mot hébreu traduit par « arpent » signifie littéralement « couple » et désigne l'étendue de terrain qu'une paire de bœufs peut labourer en un jour. Imaginez une vigne tellement grande qu'il faut 10 jours de travail pour labourer ses rangs et qui ne donne que 35 litres de vin. Quant au cultivateur qui récolte le 10e de la semence qu'il a plantée, il sera évidemment dans une grande détresse. C'est ce qui arriva aux Israélites conformément aux malédictions prévues par la loi de Moïse dans Deutéronome 28. Je continue. Malheur à vous qui courez de bonne heure après les boissons enivrantes et qui vous attardez le soir excités par le vin. Des lyres et des luttes, des tambourins, des flûtes animent vos festins, où le vin coule à flot. Mais vous n'avez pas un regard pour ce que l'Éternel a fait, et vous ne voyez pas l'œuvre qu'il accomplit. Ésaïe 5, les versets 11 et 12. Comparez Amos 4, 1, 3, 6, 6 et 7. Apparemment, les excès d'alcool sont monnaie courante au temps d'Ésaïe, car ce vice est mentionné dans deux malédictions sur les six, Ésaïe 5, 22. Ces poivreaux dépassent la mesure, puisque pour boire davantage, non seulement ils se couchent tard, mais ils se lèvent tôt. Faut le faire. Ces beuveries sont de vraies partouzes, et, de toute évidence, les participants n'ont pas le moindre respect pour Dieu ou ses avertissements. Le seul intérêt de ces têtes brûlées dans la vie est la recherche effrénée du plaisir. Le moins qu'on puisse dire est qu'au fil des siècles, ils ont fait beaucoup d'émules. Dans leur second épître, Paul à Timothée et Pierre, de Timothée 3:4, de Pierre 2:13, reprochent à leur génération ces mêmes vices. Et que dire d'aujourd'hui ?